Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour l'émission du samedi 29 août 2026, déjà le 20e épisode des Archives de l'Architecte, et on repart pour le récap de l'actu financière de cette semaine, avec en titre « Cacher cette hausse de taux que le marché ne voudrait voir », puisque, eh oui, suite à Jackson Hole, le catalyseur qui pourrait précipiter septembre dans la tourmente est apparu. Kevin Warch a remis l'inflation au premier plan et il veut toujours revenir à cet objectif qu'avait défini précédemment Jérôme Powell avant lui, de 2%, et pour l'instant nous en sommes très loin. Le combo actuel est donc toujours problématique pour septembre avec une saisonnalité défavorable comme vous le savez. La croissance n'est pas suffisamment faible pour que la Fed intervienne, mais l'inflation suffisamment élevée pour empêcher une quelconque politique accommodante. La possibilité d'une hausse de taux sur ce mois de septembre passe désormais de 35% à 56%. Un contexte tendu avec le 10 ans réel qui est remonté à 2,42 vendredi, la Fed menace de durcir les conditions monétaires via le court terme et en face en abaissante le Treasury qui cherche à empêcher les maturités longues de devenir hors de contrôle avec des rachats multiples en augmentation, notamment sur le 10 et 20 ans. Attention, ça n'est pas un QE déguisé, quantitative easing, c'est-à-dire il n'imprime pas de la monnaie ex nihilo, ni un contrôle de la courbe des taux. La Fed tente une pression à la hausse en front, tandis que le Treasury tente pour sa part d'amortir le long terme, un scénario dans dangereux si le 2 ans venait à repasser au-dessus de 4,5%, le 10 ans au-dessus de 5 points et enfin le 30 ans au-dessus de 5,4%. Nous n'en sommes pas là et probablement qu'il y aura diverses mécaniques qui vont se mettre en place, mais il va falloir surveiller de très très près ces prochaines semaines les taux en simultané du dollar qui donnera également un certain baromètre. Actions et or, toujours le cool down, on a le S&P 500 et le Nasdaq qui malgré une semaine pas dégueu continuent de chercher sur quel pied danser, puisqu'on a beaucoup de data au fur et à mesure qui font bouger les lignes et on voit que d'une semaine sur l'autre on peut avoir justement une hausse de taux qui passe de 35% de probabilité à 56%. Donc imaginez un petit peu si sur un mois déjà défavorable historiquement au niveau de la saisonnalité en septembre, en plus on a la Fed qui augmente les taux. Voilà, ça sera une manière, on va dire, assez logique et louable d'avoir une correction de marché qui interviendra. Au rayon du positif, on a eu Nvidia qui a eu des résultats extraordinaires à nouveau, donc comme d'habitude Nvidia qui dépasse très largement les attentes et qui vient de truster toutes les plus grandes prédictions qu'il pouvait y avoir. Les taux longs sont en augmentation malgré tout, donc attention au taux d'actualisation qui l'est tout autant et les multiples de valeurs de croissance donc qui petit à petit dégraissent, et notamment du côté des semi-conducteurs, on le verra en début d'analyse technique avec le SOX qui recule sur cette semaine après avoir fait là aussi un petit peu le yo-yo. Il y en a un autre qui corrige, c'est l'or, après deux belles semaines, en recul de moins 3,25% à 4478 $ l'once. C'est toutefois mécanique puisque les rendements réels entraînent une hausse du dollar qui entraîne à son tour les anticipations de la Fed et une baisse des métaux précieux, en même temps que ce qu'on a pu voir du côté des crypto-monnaies. Le pétrole recule, le WTI 83 $ le baril à moins 4%, le Brent à moins 5,4% à 89 $. La situation reste extrêmement préoccupante du côté de Hormuz. Trois zones à surveiller, 85 à 95 $ le baril, c'est une inflation persistante et c'est exactement ce à quoi on est confronté à présent et qui pourrait se transformer en stagflation en 2027. 100 à 110 $, voire au-dessus, c'est extrêmement problématique puisque ça engendrerait de nouveau des craintes de marché, donc une correction un peu plus profonde. Au-dessus de 120-130 $ le baril, on a un choc énergétique et donc un choc de marché a fortiori qui pourrait là aussi être un peu plus impactant. Du côté crypto de la force, le Bitcoin recule de moins 3,3% vendredi vers les 77 000 $. Il reste sensible à la liquidité par rapport au narratif digital gold, BTC et Ether se comportent comme des actifs high beta, amplifiés sur Ether et encore plus du côté des altcoins comme vous l'avez vu. À long terme, BTC reste malgré tout un hedge sur le problème du déficit américain et plus globalement mondial, puisqu'aujourd'hui on voit que les taux sont en train d'exploser de partout et que la dette devient un vrai problème et un vrai enjeu pour les prochaines années. La possibilité également toujours de la dépréciation monétaire qui, au travers du temps, on le voit factuellement sur des dizaines d'années, que ça soit du côté de l'euro, que ça soit du côté du dollar ou peu importe. Bien que à ce jeu-là, il y ait quelques résistants et notamment le franc suisse, mais globalement, n'importe quelle monnaie connaît une inflation et parfois complètement monstre, comme on l'a vu notamment en Turquie ou en Amérique centrale et latine qui, de temps en temps, met complètement un pays et surtout les gens qui composent pose ce pays à genoux. Donc c'est vrai que à ce jour, eh bien de ce côté-là, Bitcoin n'a pas à rougir par rapport à ce hedge mondial de la dépréciation monétaire, puisque comme vous le savez, la base de tout au niveau de BTC, c'est qu'il n'y en aura que 21 millions et qu'il y en a déjà un bon peu qui ont été perdus. La semaine prochaine, qu'attendre, et surtout au cours de ce mois de septembre, on aura l'emploi des États-Unis le 4 septembre, début des rachats du Treasury le 9 septembre, le CPI, l'inflation le 11 septembre, FOMC le 15 et 16 septembre, avec la décision à venir, ça va être vraiment mouvementé, je pense, si jamais le marché commence à prendre peur d'avoir une hausse de taux, donc grosso modo dans la 15-20aine de jours à venir, et enfin le PCE le 30 septembre, qui sortira après la réunion de la Fed, qui devra donc prendre cette fameuse décision sans cette donnée essentielle. Donc vraiment là, septembre, je pense que ça va être explosif pour le coup. On part pour l'analyse technique. Comme je dis souvent, on va essayer d'aller assez vite, bien que eh bien, fondamentalement, tout ce qui a été dit ces dernières émissions n'a pas changé en tant que tel. Vous sentez un petit peu la direction et la problématique que ça a, d'avoir des indices qui sont extrêmement hauts, le tout avec une problématique d'inflation qui reste persistante et une Fed qui est à deux doigts finalement de commencer à se dire, eh bien, on va devoir monter les taux alors même que le marché est déjà très haut. Donc on a le SOX autour de 11 470 points, moins 3,50. Le VIX, qui est l'indice de la peur et de la volatilité, donc qui corrobore très bien ce dont on parle ici, on n'est pas sur un point bas ultime, mais on est dans la fourchette basse, ce qui fait que quand on a une volatilité extrêmement faible du côté d'un marché américain qui est extrêmement haut, vous vous doutez bien, en cas de retour de volatilité, dans quel sens ça risque de partir. Le S&P qui a clôturé à 7711, mais qui malgré tout clôture la semaine dans le vert, ceci étant dit, on est dans une toute petite configuration. J'ai toujours pour objectif technique hebdomadaire, si ça se gâte, autour de 7000 points en septembre. Le dollar qui n'a pas dit son dernier mot et qui est à surveiller, puisque là aussi, si on a un dollar qui repart sur sa borne haute ici ou sur cette médiane de range où nous attend à 102, 103 points, la moyenne mobile à 200 semaines, ça aura également des implications multimarchés. Le DAX a clôturé pour l'Allemagne à 26 569, le CAC 40 à 8400 points, trois semaines de baisse consécutive, mais petit à petit, le marché est en train d'essayer de payer. Et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, donc il faudra surveiller à la fois les taux courts, mais surtout ces taux longs qui, pour l'instant, ont envie encore et toujours de rebondir. On a l'impression que les effets d'annonce sont passés et que systématiquement, on continue d'avoir cette problématique obligataire en simultané de la problématique des déficits et de la dette, bien entendu. Le gold qui nous fait une correction donc depuis les 4690, il revient tester la zone de support des 4400 et quelques où nous attend la moyenne mobile 50 à 4424 précisément. C'est plutôt clean pour le coup. Le crypto total qui a buté sur la moyenne mobile 50 exactement comme on le pressentait, 2730 milliards. On est à 2590 ce week-end. Donc on va voir comment ça va se construire ici. Le best-of, là aussi, comme on le disait dans la dernière émission, serait une configuration en épaule, tête-épaule inversée. Ça nous laisse passer un petit peu le schisme là de septembre et de l'automne. Et d'un point de vue de la temporalité, ça permettrait à tout le monde de se dire que oui, ce bear market aura été bien différent, puisque du côté de Bitcoin, ça aura été un des bear markets les moins compliqués à naviguer avec seulement moins 54%. Et d'un autre côté, d'un point de vue du timing, eh bien, ceux qui attendaient l'automne coûte que coûte du cycle de 4 ans auront été ravis d'arriver jusqu'ici. Donc voilà, ça conviendrait un petit peu à tout le monde. Donc on va voir comment va réagir le cours sur ce mois de septembre qui s'annonce tumultueux d'un point de vue du marché américain. Il est à noter également que si pour le cours du spot autour de 77 à 83 000, c'est une résistance structurelle de marché, on peut même dire 80-83. Du côté de Hybit pour donc l'ETF, le premier, le plus gros, le mieux capitalisé de BlackRock, iShares, on est au contact également de la moyenne mobile 50. Et quand on regarde comme ça, eux, pour ceux qui avaient réussi à acheter ici en janvier 2024, sur la fin janvier, autour de 22 $ la part, c'était sur le cycle précédent, plus 225%. Et c'est là où, sur ce cycle, je pense que Bitcoin est un peu à la croisée des chemins. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué ensemble, sur le fait que On peut voir au travers du temps, depuis toujours, chaque cycle et chaque itération répétant exactement plus ou moins le même motif, une volatilité qui au fur et à mesure est en train de se diminuer, tant à la hausse qu'à la baisse. C'est exactement ce que ça sera si ce bear market n'avait que moins 54%. Et aujourd'hui, on a ces data qui prennent le pas finalement sur le spot, sur le on-chain, sur les détenteurs long terme et sur beaucoup d'autres choses, des flux institutionnels. Et là où je veux en venir, c'est que si on s'en fie à cette volatilité amoindrie et que 57 000 était bel et bien le point bas de ce cycle du côté de Bitcoin sur le spot, ça va nous poser une problématique qui est très simple, c'est-à-dire quel va être le multiple auquel on peut s'attendre sur ce cycle. Est-ce qu'on va aller à 125 000, 150 000, tout juste dépasser l'ancien ATH? Est-ce qu'on peut viser 180 000, 200 000? Et on va avoir besoin dans tous les cas d'avoir un sursaut, un regain d'intérêt sous peine, je suppose, un jour ou l'autre, d'avoir le stade où déjà Bitcoin est bien capitalisé en milliers de milliards et il y aura un moment où on atteindra peut-être un cycle de plateau slash cycle de désintérêt et où ça prendra comme ça plusieurs années entre deux bornes. Admettons que ça arrive dès maintenant, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais pourquoi pas avoir un BTC comme ça qui nous fasse le yo-yo entre 50 000 et 100, 150 000 pendant plusieurs années. Et là, ça découragerait aussi un petit peu ceux qui voyaient un Eldorado par le passé pour essayer de devenir riche rapidement, entre gros guillemets, mais vous comprenez un petit peu là où je veux en venir. Donc aujourd'hui, je pense que sur ce cycle en particulier, BTC n'a d'autre choix que de casser cette volatilité baissière depuis plusieurs cycles pour venir faire un super cycle, entre guillemets, qui serait alimenté très largement par des flux institutionnels totalement validés par le Clarity Act, etc. etc. Et donc il nous faudrait fondamentalement, au-delà de point bas, pas point bas, avoir un BTC qui de nouveau nous enquille un x 5, un x 6, exactement comme on l'a fait sur le cycle précédent. Pas pour dire on fait une copie en quelque forme que ce soit du passé ou je ne sais quoi, mais pour dire on a enfin cassé cette trend baissière d'avoir un multiple à chaque fois énormément divisé à chaque itération de ce fameux cycle. Donc j'espère que ça vous parle, ce dont je suis en train d'essayer de vous donner une explication, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important à surveiller pour ce cycle de 2026 à 2029 et 2030. La seconde crypto-monnaie du marché, Ether, qui s'est bloquée à la moyenne mobile 200 slash 50 entre 2497, pour pas dire 2500, et 2582. Donc pareil, hein, c'est le combo ici de blocage. Il est à noter que c'est pareil sur le flux institutionnel sur ETHA, donc pour iShares. On est au contact de la moyenne mobile 50 et donc tout ce qui se passe entre 19 et 20 dollars ici est une zone structurelle de résistance pour les ETF. Au niveau des minières Trésorerie et compagnie, eh bien, ça a bien reculé et dégraissé sur la fin de semaine. Moins 12,53 pour Iron, qui revient sur son support. Marathon, au milieu un petit peu de nulle part, à moins 10. On a CLSK sous la moyenne mobile 50 qui n'arrive pas à passer moins 10. Cypher sur support, mais qui risque de le perdre à moins 10 également. Hive, même musique. Donc, vous voyez que les minières, c'est exactement ce que je vous disais la dernière fois. Certes, on est sur des zones long terme qui peuvent être intéressantes, mais c'est vraiment de la nitroglycérine. C'est très, très compliqué pour le coup. Du côté de Circle, on a buté sur la moyenne mobile 50, donc bougie d'indécision sur support pour l'instant à 87 dollars, 127 pour MicroStrategy après avoir touché dans la semaine 140. On a TerraWolf à moins 7% qui perd la moyenne mobile 50. On va peut-être avoir un jour notre bas de range. Il y aura déjà une zone intéressante pour moi à payer peut-être autour de 9 dollars, 9 dollars 30 et ensuite autour de 7 dollars avec cette jolie moyenne mobile 200 qui remonte petit à petit. On voit ici qu'on n'a pas besoin de se presser puisque que TerraWolf, Wolf de son ticker, respecte plutôt pas mal ce canal parallèle ascendant et qu'on est bien borné avec en bas la moyenne mobile 200, le RSI est baissier, le MACD est baissier. Donc laissons ce couteau se planter, mais peut-être je ferai une dérogation, ça sera une de celles qui pourrait potentiellement m'intéresser, en tout cas d'un point de vue de ce que propose l'analyse technique. On a Coinbase qui a buté sur les 190 dollars, de retour au contact de la moyenne mobile 200, à voir s'il arrive à tenir donc cette zone. Du côté du marché américain, le deal ne serait pas validé pour PayPal qui recule de moins 13% en séance, moins 5 pour Robinhood au contact de la moyenne mobile 50, moins 4,57 pour Nvidia, bougie d'indécision malgré des résultats complètement fous et on voit au travers du temps que ça soit sur le RSI ou le MACD, le prix est en train de se contracter pour Nvidia. Donc là, ce qui serait bien, c'est que si on a une correction un peu plus marquée autour de l'automne ou même une simple correction de 5 à 10% pour le S&P 500, sans parler de grands crack ou je ne sais quoi de marché, ça permettrait aussi de reset ces superstars et ça nous permettrait d'avoir des prix d'entrée qui à la fois sont attractifs et permettraient au marché de prendre une belle grande respiration. Quand on parle de grande respiration ce coup-ci, s'il y avait un truc un peu plus profond, par exemple en retour à la moyenne mobile 200 aujourd'hui de Nvidia, c'est moins 47%. Donc là, bon, ça voudrait dire que le S&P a perdu plus que moins 5, moins 10 pour avoir Nvidia quasi à moins 50, mais c'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du possible et c'est des objectifs techniques qui j'espère tôt ou tard reviendront puisque ça permettrait aussi de passer un premier grand reset du côté de l'IA, des semi-conducteurs et derrière de redonner une belle dynamique, d'insuffler vraiment des prix qui seraient des prix discount par rapport au futur et le marché de temps en temps a besoin aussi de gommer ce genre d'excès. Visa qui valide sa semaine en sortie donc nouvelle ATH à 380$, on a Coca-Cola à 90 en légère correction mais qui clôture dans le vert vendredi. Take-Two pour la sortie de GTA 6, ça spécule mais tranquillement, donc le mouvement est déjà fait bien entendu, on l'avait pris ensemble au moment de l'annonce de GTA 6 ici en mai 2023, on était à $123 et par la suite le cours a progressé jusqu'à $262. Est-ce qu'on arrivera à dépasser toutes les attentes et à relancer un bull run du côté de Take-Two? En tout cas pour l'instant le mouvement est déjà fait, donc il faudra observer les chiffres qui sortiront une fois que ça sera commercialisé. Apple avec un mois de septembre chargé à plus 1,63, $320. Microsoft 513 qui revient pas très loin de son ATH. Très content de l'avoir payé autour de $350. On a un ATH à 553. L'appareil, le mouvement est déjà fait, donc laissez-le, peu importe où il viendra chercher ce micro-top local se planter ici dans son toit. Et par la suite, ça nous permettra de recharger plus tard. Au rayon des recharges, et c'est un petit peu Nvidia-like, j'ai envie de vous dire, sur Google Alphabet, on est haut et on est pas très loin de la moyenne mobile 50, donc déjà un support intéressant autour de 322, on en a un autre à 272, et pour du long terme, eh bien moi j'aimerais bien avoir la moyenne mobile 200, qui de nouveau nous amène à moins 44%. Donc vous voyez que même sur les superstars, un moins 40 à moins 45, ça permettrait vraiment d'effacer cette ardoise. Netflix qui rebondit depuis 6 semaines consécutives, attention, petite résistance à court terme, autour de $82. Moyenne mobile 50 et Fibo à 90-92$ si jamais on avait une ou deux semaines de supplémentaire. On a quelque chose, un setup qui est quand même assez clean hein, d'un point de vue technique. Nike qui essaie de défendre son support des années pop, j'ai envie de dire, puisqu'on remonte en 2013-2014. Donc une zone peut-être pour le marché à payer entre 35 et $40 pour un Nike qui vient d'un ATH en novembre 2021 de $176. Donc c'est vraiment la déroute. Je ne sais pas trop ce qui se passe, j'ai pas suivi d'un point de vue fondamental ce dossier qui recule de 78%, mais voilà, ça devient à la fois compliqué et d'un autre côté, peut-être que spéculativement parlant, il y aura un coup à jouer de ce côté-là, quand on a des actions à ce point baissière, et j'ai pas la sensation que Nike va faire faillite du jour au lendemain. Ceci étant dit, comme je vous dis, je suis pas rentré dans les détails des comptes ou les détails fondamentaux, donc je vous invite comme d'habitude à bien vérifier de votre côté. Du côté France, on a eu une petite reprise en fin de semaine, mais pas plus, pas moins. Je surveille pas énormément tant que le CAC 40 ne remonte pas véritablement des signes de reprise. On a le luxe qui continue de consolider. Hermès, ça fait vraiment très longtemps qu'on est paqué ici et qu'on a beaucoup de volume à échanger entre 1500€ et 1800€. Donc, à voir comment on pourrait sortir de là. Pareil pour LVMH, ça fait très très longtemps qu'on gravite à 440-450€. Donc là, en vrai, avec la famille Arnaud derrière qui rachète ses propres actions, etc., on est quand même sur un truc séculaire, on est sur un empire. Je pense pas que le truc parte complètement à la cave, mais d'un point de vue technique, eh bien, si on passait sous les 440€ et qu'on ait une accélération baissière, ça ferait une sacrée languette de flambi, comme on dit, et des supports qui sont beaucoup plus loin, donc faites attention à vous. Mais c'est vrai que le ratio risque-récompense, si on met un stop pas très loin en dessous ici, pourrait être plutôt favorable, en tout cas pour le court moyen terme, si tant est un jour qu'on revient un petit peu sur un mood positif du côté du secteur du luxe. Au niveau des altcoins, on a Hyperliquid qui marque le pas après avoir touché dans la semaine 86.6. Donc là aussi, pour l'instant, il faut le laisser faire. On va voir comment va se passer ce mois de septembre décembre pour les cryptos. On avait Solana qui a fait une très très belle semaine, deux d'ailleurs belles semaines, qui s'est heurtée immédiatement comme on le pressentait, et c'est pareil sur une bonne majorité des altcoins qui ont une dynamique assez positive sur le combo moyenne mobile 200, 109$, moyenne mobile 50 juste au-dessus, autour de 112$. Du côté asiatique de la force, on clôture avec Nintendo qui défend sa moyenne mobile 200 à plus 3% sur la fin de semaine. Une configuration technique aussi qui est très très propre. Alibaba qui essaie de se raccrocher aux branches de ses $120, on est à 118 à plus de 23. Tencent qui continue de latéraliser. Ceci étant dit, là, ça fait un moment aussi qu'on a un petit paquet, donc peut-être que par la suite, on aura une sortie favorable à suivre. Xiaomi qui est pas très sexy, mais au-dessus de sa moyenne mobile 200. Les taux à 30 ans au Japon qui continue de progresser, plus 1%, 4,11. Et pour le 20 ans, 3,81. Ça, pareil, d'un point de vue technique, on a plus l'impression que ces taux vont tous s'arracher à la hausse, et peut-être qu'en septembre, on va avoir enfin un espèce de choc ou crack obligataire, je ne sais pas. Topix pour le Japon à plus 0,72. Le Shanghai Composite clôture dans le vert la semaine, mais à moins 0,11 vendredi. Le Nikkei, pareil, 0,48 sur une bougie d'indécision. Le Kospi pour la Corée défend son support depuis deux semaines, mais ça reste complicado, à 6,788. Et enfin, Samsung clôture la semaine dans le rouge à moins 3,38. Avec là aussi une configuration qui, pour l'instant, d'un point de vue technique, ne donne pas envie. Je vous souhaite un excellent début de week-end, continuez d'être prudent, et comme vous l'aurez compris, on va surveiller tout ce mois de septembre qui s'annonce chargé tant d'un point de vue des décisions des fondamentaux que de ce que pourrait nous donner le marché en retour. Je vous donne rendez-vous mercredi, le petit pouce, le petit commentaire, et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.